Voilà, bonjour, donc Éric Flavier, je suis enseignant et enfin enseignant-chercheur à Strasbourg, à l'ESPE à Strasbourg. Donc je travaille avec Sylvie Mousset depuis quelques années, et particulièrement sur ces problématiques de décrochage scolaire. On essaie de réfléchir aux moyens que peuvent être ceux des enseignants, des formateurs, de lutter contre le phénomène de décrochage scolaire. On le verra dans la journée, celui de décrochage professionnel aussi, parce que le travail de l'enseignant est intimement lié à celui de l'élève, ou inversement. Donc on essaiera de réfléchir sur ces deux perspectives. On aura l'occasion d'échanger dans la journée si on veut se connaître un peu plus. C'est pas tant nous le sujet principal de la journée, mais plutôt les problématiques qui nous réunissent autour du décrochage. Simplement, en termes de petits repères pour la journée, on va passer la matinée à travailler. On va prendre, allez, on va dire jusqu'à 10 h, un moment un petit peu plus plaigné, sans pour autant qu'il soit complètement magistral, pendant lequel on prendra tout de même un peu plus la parole. Et puis ensuite, on essaiera de travailler un peu plus concrètement sur des cas particuliers. On vous a demandé de vous inscrire, il me semble, sur des ateliers pour la deuxième partie de matinée, à partir de 10 h environ. Simplement, pour des questions pratiques, s'il y a une répartition à peu près équilibrée entre les ateliers, c'est plus simple à gérer en termes de flux de personnes. Ne vous laissez pas non plus complètement piéger par le titre des ateliers. Les trois médias sur lesquels on va travailler sont vraiment des supports pour aborder les problématiques de décrochage scolaire et professionnel. Et si on leur a donné des titres sur faire face aux incidents, travailler en lycée professionnel, le troisième qui se base sur les verbatims d'interaction en classe, c'est simplement pour pouvoir les repérer. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'aborder la question du décrochage dans ces cas-là, et pas d'analyser le travail de l'enseignant en lycée professionnel parce qu'il est en lycée professionnel ou parce que ce sont des incidents, quoi. Voilà. Donc au final, on va tous se retrouver autour d'un questionnement qui est partagé, même si on travaille sur des cas particuliers et différents les uns des autres. Deuxième partie de journée, après la pause déjeuner, on recommence aussi par un temps plaigné, histoire de permettre à chacun de digérer tranquillement. Et puis ensuite, on bascule sur des problématiques qui sont plus celles de la formation, où on essaiera de réfléchir de manière un petit peu plus resserrée, dans des petits groupes, sur les perspectives en termes de dispositifs de formation, et comment on pourrait essayer de réexploiter ce que vous avez pu voir hier, ou plus particulièrement ce qu'on aura vu tout au long de la journée ensemble. Voilà, avec une fin prévue vers 17 h maxi, et un petit peu plus tôt pour ceux qui ont des trains précocement, en espérant que le métro remarche pour pouvoir rejoindre la gare rapidement, quoi. Sinon, vous bénéficierez d'une soirée à Lyon pour visiter la ville, la place Bellecour, les monuments historiques, etc. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Je ne suis pas très à l'aise pour parler assis, mais en même temps, on n'a pas le choix parce que le micro est accroché. Alors, cette diapositive complexe, peut-être pas très lisible, surtout de loin, je vous explique les deux, trois points de repère. Le premier point de repère, c'est la courbe orange qui est tout en haut du schéma, sur laquelle on observe finalement une grosse rupture à un moment donné. Ce moment donné, il se caractérise par la fin du lycée. Et la courbe représente le taux de scolarisation pour une classe d'âge. Et donc, on peut remarquer assez simplement avec cette courbe-là que à l'âge de 17-18 ans, on a une chute extrêmement importante dans le taux de scolarisation des jeunes. Donc, le phénomène de décrochage scolaire apparaît visible statistiquement que tardivement. C'est-à-dire que jusqu'à 17-18 ans, on a un taux de scolarisation qui est entre 93 et 98-99%. Donc on ne perçoit pas de différence significative. Par contre, il tombe à 50% sur la tranche 18-24 ans. Donc, premier signal, c'est repérable statistiquement très tardivement. Deuxième élément à repérer, ce sont les petites étoiles en rouge qui caractérisent des moments particuliers dans la scolarité des élèves, c'est-à-dire des moments sensibles dans le parcours scolaire des élèves, l'entrée en, au CP, l'entrée au collège, la période de l'orientation et de l'adolescence autour des classes de 4e, 3e, 2e, qui sont des moments qui apparaissent comme étant un petit peu plus déterminants dans les parcours scolaires des élèves. Et puis, troisième élément, ce sont les flèches bleues tout en bas qui nous interpellent quand même sur le fait qu'un certain nombre de facteurs qui ont été identifiés, peut-être que hier on vous en a présenté un certain nombre, quand on s'intéresse à la question du décrochage scolaire, les études notamment menées en sociologie s'attachent à identifier des profils d'élèves, des facteurs de risque, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan de l'environnement social, économique, sur les conditions d'apprentissage. Et donc tous ces facteurs-là sont des facteurs qui n'apparaissent pas subitement à un moment donné dans la scolarité. Ça relève plutôt d'un processus un petit peu plus long sur lequel ces facteurs ont une influence plus ou moins marquée. Et on est plutôt, quand on parle de décrochage, dans l'image de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, plus que dans le coup de feu qui part d'un coup. Simplement, le coup de feu, c'est la courbe orange, c'est le révélateur. Et on a choisi, dans nos travaux, de s'intéresser plus qu'à la courbe orange, aux flèches bleues qui sont en dessous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait essayer d'appréhender ce processus dans le quotidien et dans la complexité du parcours scolaire des élèves accompagnés par leurs enseignants. Donc voilà un peu la problématique et le ton sur lequel on va travailler. Sylvie a distribué il y a quelques minutes des fiches sur les tables sur laquelle on a proposé installez-vous rapidement. Hein, on connaît les raisons de votre retard. La grasse matinée. Donc Sylvie a distribué des fiches qui représentaient là ici. On va vous proposer de prendre 5, maxi 7, 10 minutes pour prendre connaissance des différents items qui sont proposés et posez-vous la question. Alors vous le faites individuellement, vous le faites en petit groupe en discutant avec vos voisins, peu importe, mais c'est pour nous aussi un moyen de prendre la température de la salle et de savoir ce que vous percevez comme pouvant être du décrochage ou pas. Volontairement, on n'en a pas donné de définition. Il y a des chances qu'elles soient un petit peu différentes de celles qui vous a été données hier, parce qu'on a notre manière de concevoir un petit peu cette question du décrochage. Donc voilà, 5-7 minutes pour réfléchir et positionnez-vous pour chacune de ces affirmations. Est-ce que pour vous ça relève d'une situation de décrochage scolaire? Oui, non. Est-ce que ça relève d'une situation de décrochage professionnel? Oui, non. Sachant qu'on est assez ouvert sur les réponses, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais ce qui nous intéresse, c'est précisément de voir comment chacun perçoit, comment chacun se positionne et quels sont les débats que ça va pouvoir susciter ou les interrogations que ça va susciter entre nous, et on se donnera pour challenge d'y répondre dans la journée. Pas nous, mais nous ensemble, pour répondre à toutes ces questions qui vont émerger de ce premier tout petit temps de réflexion. Voilà, je vous laisse prendre connaissance et on se retrouve dans 5 minutes.
On va quand même commencer pour ne pas prendre trop de retard. Donc, on va vous poser une question. Sylvie et Stéphane sont là pour vous donner le micro si vous le souhaitez. Et on est là dans une mise en activité, hein, matinale. Donc, on va essayer de prendre les réponses à la volée, comme ça. Quelles sont les personnes qui ont mis oui à toutes les questions? J'espère qu'on va trouver quand même un accord à un moment donné. Oui, presque. Quelles sont les personnes qui ont mis donc non à toutes les questions? D'accord. En partant de ce constat, donc on va essayer de voir quelles sont les questions qui vous ont posé problème. Est-ce que c'est là, bien évidemment, bon, j'ai écouté également à droite là l'expression, la façon, donc la syntaxe, etc. Donc ça nous a posé problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu comprends, toi? Donc on voudrait savoir là quelles sont les questions qui vous ont un petit peu, sur lesquelles vous avez hésité. Et puis ça va nous permettre peut-être de rentrer dans une définition, dans plusieurs définitions du décrochage scolaire que vous avez vu, que vous avez cru percevoir donc dans les questions. Allez-y, à vous.
Bonjour, deux questions m'ont posé problème. La première, c'est la question 2. Il y a des élèves qui se trompent d'emploi du temps. Pour les modules orales, ce sont les mêmes qui bavardent et qui ont les résultats les plus faibles. Donc déjà, la question de module d'oral, qu'est-ce que c'est? Et pour moi, ça, c'est trop ambigu pour que j'arrive à le positionner. Et la dernière, ce sont pour nos chers amis retraités, la 23, pour le décrochage professionnel m'a posé problème. Donc je voulais pas trop les stigmatiser comme des décrochats.
En même temps, à un moment, il faut savoir décrocher.
Qu'est-ce qui a posé problème? Une question d'interprétation, une question de positionnement pour se dire est-ce que ça en est ou est-ce que ça en est pas?
Pourquoi? Pourquoi l'intégrer là-dedans? Et l'affirmation, ce sont les mêmes qui bavardent, qui se trompent d'emploi du temps pour les modules d'oral. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, module d'oral, je ne sais pas ce que c'est. Et cette affirmation-là, c'est peut-être un problème de compréhension des consignes, plus que du décrochage.
Ouais. Alors, pour éclairer, modules d'oral sont des séquences de travail propres à un dispositif dans un établissement scolaire, quoi. Donc, qui sort du quotidien de l'emploi du temps des élèves et ils demandent donc aux élèves à être un tout petit peu plus vigilants pour savoir dans quelle salle ils doivent se rendre pour participer à ces activités en parallèle de leur scolarité. Et c'est quelque chose qui sort du quotidien de l'emploi du temps. Et finalement, le témoignage nous dit ces élèves qui se trompent dans la lecture et la vigilance qu'on doit avoir à l'égard de l'emploi du temps, on remarque que c'est quand même les mêmes qui bavardent et ce sont les mêmes qui ont des résultats un peu faibles. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui? C'est du décrochage? Est-ce que ça en est pas? Et puis, pour la dernière, voilà, nos collègues qui me disent, je te laisse la parole.
Oui, pour la dernière, je pense que c'est en effet sous forme de humoristique. Hein, je pense qu'on peut le prendre comme ça. Et en même temps, on peut y voir également une fin, la fin d'une activité professionnelle. Et je pense que c'est important également de souligner ce processus, cette idée de processus aussi, c'est la fin de quelque chose. Alors, en effet, une retraite bien méritée, bien sûr, mais c'est-à-dire que le professionnel va donc rentrer dans un autre processus d'activité. Voilà. Donc, mais ça n'est pas du décrochage professionnel. On est bien d'accord. Donc, vous avez bien répondu. Vous avez hésité, mais vous avez bien répondu. On va passer sur cette question, si vous voulez bien, et on va prendre donc d'autres questions sur lesquelles vous avez hésité.
Oui. Moi, j'ai été gênée par la première, en fait. Parce que vous parliez de situation décrite dans votre consigne. Et en fait, là, donc le début, c'est une situation décrite, un élève qui commence à être absent, à venir en pointillé. Et ensuite, c'est analysé et interprété, puisque c'est trop tard la plupart du temps. Donc, du coup, j'ai du mal à choisir, puisque cette situation est présentée comme étant une situation de décrochage sans qu'on ait à décider si c'en était une ou non. Voilà.
Ouais. En effet, ouais, il y a les deux versants hein, dans l'affirmation qui est proposée là ici. Au-delà de ça, la question centrale ou en tout cas l'axe de réflexion central, c'est celui autour de l'absentéisme et de se dire est-ce que quand on est confronté à ce type de situation, on bascule dans ce qui relève du décrochage ou pas. Voilà.
D'accord, mais bon, moi je considère pas que c'est trop tard quand même. Du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal à me positionner.
On peut effectivement dire, bon allez, on va mettre de côté le côté interprétation sur le caractère trop tard ou pas. Si on veut prolonger un peu plus le débat aussi, si c'est pas trop tard, ça implique quand même des moyens différents. C'est-à-dire que pour qu'on puisse œuvrer contre le décrochage scolaire ou contre le risque plutôt de décrochage scolaire, on ne peut le faire que quand on a les personnes en face de soi. Et donc un élève qui devient absentéiste, et quand l'absentéisme commence à être significatif ou plus important, vient se poser la question des personnes relais, vient se poser la question des moments où on peut agir, où on peut œuvrer, puisque l'intervention de l'école va être une intervention intermittente dans les seuls moments de présence, quoi. Donc voilà. Je suis pas certain qu'il y ait de... En tout cas, pour moi, il n'y a pas de réponse claire ou nette. Hein. C'est-à-dire que je veux bien admettre qu'on puisse se positionner sur le oui ou sur le non sur cet item-là. Par contre, il me renvoie à ces questionnements et de savoir jusqu'où l'école a la possibilité d'intervenir. On verra aussi cet après-midi que finalement on a des dispositifs qui sont pas forcément centrés uniquement sur l'école, mais dans le cadre d'alliances éducatives qui mobilisent des acteurs de la communauté éducative en dehors de l'école, qui peuvent permettre effectivement de trouver des moyens de répondre à cette question-là sans que ce soit strictement dans le périmètre de l'école.
C'était juste pour rajouter un petit peu, même si vous avez donné une réponse, mais nous avions le même souci en fait là dans le groupe de ces deux parties, enfin des deux parties, et en fait on est arrivé à l'interpréter sur, on va se positionner sur le constat aussi, est-ce que c'est décrochage ou pas, c'est-à-dire l'absentéisme, et après la deuxième partie on a pris, parce que finalement après on a trouvé plein d'autres un peu pareils où on pouvait se placer d'un point de vue du décrochage professionnel. C'est-à-dire, là, plus le commentaire de l'enseignant, enfin de celui qui avait affaire à ces faits-là, et donc son positionnement. Et donc, du coup, on était parti à mettre beaucoup de décrochage professionnel
Oui, mais tout à fait. Et je pense que là, vous introduisez le propos de tout à l'heure, puisque on va, en effet, on fait l'hypothèse d'un double décrochage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retrouver avec ces deux processus, puisque depuis tout à l'heure, on parle de processus, mais le décrochage est en effet un processus et non pas un état. Et donc, ces deux processus qui sont interpénétrés. On en dira plus davantage tout à l'heure. Moi, je vais rebondir sur, puisqu'il n'y a peut-être pas d'autres mains levées, mais je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Du décrochage professionnel, il y en a un peu partout, en effet, et à partir donc de la question 20, j'aimerais bien avoir votre point de vue. Est-ce que le décrochage, donc c'est une question et ce n'est pas une question, c'est une phrase, pardon. Donc, est-ce que le décrochage professionnel, d'après vous, relève d'une affaire de goût, d'une affaire de motivation ? Alors, c'est un facteur, c'est un élément qui pourrait expliquer donc. Le décrochage professionnel.
Oui, vous êtes allumé. Oui, c'est pas tout à fait une réponse par rapport à votre question, mais un petit peu quand même. Et je reviens sur quelque chose. Il y a deux questions qui m'ont interrogée. C'est la 10. J'observe la manière dont ils font le travail, ils ne lisent pas les questions, etc. Et puis une qui est dans le même sens, ils sont sensibles, ils ont toujours été un échec, parce que ces deux affirmations font référence à un traitement de groupe, contrairement aux autres où on cible des élèves ou une personne. Ce que j'ai trouvé intéressant, là, je me suis interrogée, parce qu'on ne peut pas dire qu'un groupe entier est en situation de décrochage, ou alors c'est l'enseignant, justement, par sa pratique, qui génère un décrochage de l'ensemble de son groupe. C'est un peu la même chose dans les deux questions. Donc on observe, on donne un travail, on s'aperçoit que finalement, globalement, le « il » englobe l'ensemble du groupe qu'on a en responsabilité, ne réagit pas par rapport à ce qui est demandé. Et la question suivante qui m'a interpellée, qui est aussi au pluriel, la 16, par contre, l'enseignant dit constate qu'il a accueilli un groupe en échec au départ, et en même temps donne quelques pistes, ils ont besoin d'être encouragés, essaie de raccrocher. Donc on est sur deux attitudes professionnelles, ou deux jugements professionnels face au groupe classe qui est confié, qui est un peu différent. Donc j'ai trouvé ça intéressant sur les deux questions. Je me suis un peu interrogée sur, effectivement, est-ce que là on peut parler de décrochage d'un groupe.
Sachant que, alors je vais répondre, mais peut-être de façon succincte, puisqu'on va revenir sur ces définitions. En effet, nous considérons et nous inscrivons le processus de décrochage scolaire dans un processus collectif. C'est-à-dire que le professeur
peut-être donc l'activité du professeur, c'est un système qui s'inscrit dans un système encore plus large, c'est-à-dire le professeur, les interactions professeur et élève. Et nous avons également à côté, eh bien, le système, un autre système d'activité qui comprend les activités des élèves. Sachant que l'activité d'un élève peut être également donc influencée dans ces processus même-là de décrochage, influencée par le groupe des pairs. Les élèves eux-mêmes, vous les connaissez mieux que nous peut-être, et les élèves ont des règles. Les élèves également fonctionnent de manière groupale quelquefois et de manière même brutale quelquefois vis-à-vis d'un élève qui justement a une conduite peut-être atypique ou qui décroche ou qui a ce comportement. Donc en effet, moi je répondrai de cette façon, c'est-à-dire on voit ici qu'il y a bien sûr un processus peut-être individuel qui est donc qui s'insère dans un système collectif. Voilà, donc ce serait ma réponse et je pense que on éclairera en tous les cas cette approche là. Alors dernière remarque et puis ensuite on va enchaîner.
C'était par rapport à votre question sur le professionnel qui est motivé ou pas. On a différents profils en fait de professionnels. Je fais la formation des profs décrocheurs. Donc on a tout type d'enseignants, d'évacateurs, de jeunes collègues qui commencent leur métier, des collègues qui ont changé d'établissement et qui se retrouvent dans un établissement et qui n'arrivent pas à s'adapter aux nouvelles pratiques de l'établissement. Donc la motivation, elle est liée d'une part aux représentations qu'ils se faisaient du métier et dans l'écart qu'ils trouvent entre ce qu'ils ont appris, notamment dans la formation des stagiaires, et ce qu'ils trouvent vraiment dans la réalité scolaire. Donc là, il y a un désenchantement, on va dire. Pour l'évacuateur, on va dire qu'il y a plutôt une incapacité à répondre aux sollicitations des adolescents, par manque de moyens, tout simplement, de connaissances pédagogiques basiques, quoi, hein. De communication, au niveau de ses missions aussi, peut-être tout n'est pas bien cerné, hein. Voilà, donc je pense que c'est dans le fait de l'action que la motivation s'entretient, s'arrête ou démarre, hein, souvent, hein. Voilà. Donc, si je peux.
D'accord. Merci. Alors, vous avez bien compris que le questionnaire était fortement orienté, que c'était pour nous l'occasion de progressivement vous amener et vous familiariser avec certaines définitions que nous défendons, hein, qui correspondent donc, qui s'appuient à une approche théorique. Et là, si je dis ça, c'est parce que, en effet, on va pas voir et on va surtout pas définir le décrochage professionnel comme une affaire de motivation. Mais on va plutôt parler de préoccupations ou de préoccupations, de dépassement de ces préoccupations. On va plutôt parler de dilemme. Un enseignant qui décroche est un enseignant qui, et vous avez pu les rencontrer, ceux qui s'expriment, ce sont des enseignants qui rencontrent des difficultés, qui peuvent exprimer ces difficultés et surtout derrière ou sous-jacent à ces difficultés. Donc, nous avons les dilemmes. Les problématiques professionnelles qui sont exprimées par le professionnel. Donc un professionnel qui vous dit, voilà, je suis préoccupé par la gestion de classe, je suis préoccupé par le travail collectif avec mes collègues, eh bien, et puis qui demande également, qui formule une demande de mutation, eh bien derrière cette demande de cette demande de mutation, eh bien il y a en effet toute cette expression, toute cette subjectivité. On y reviendra tout à l'heure. Donc, en bref, pour résumer, le décrochage professionnel, ce n'est pas une affaire de motivation, mais plutôt une affaire de dilemme, de préoccupation professionnelle. Voilà.
On va enchaîner un petit peu, hein, désolé pour le caractère rapide sur le temps passé sur ces activités. On essaie de compenser un tout petit peu aussi le retard pris en début de matinée pour pouvoir boucler le programme. Gardez-le sous le coude, cette petite feuille avec toutes ces affirmations. Ça sera le moyen de les réinterroger dans le courant de la matinée, dans le courant de la journée, pour pouvoir y revenir. Simplement, elles sont toutes extraites ou quasiment hein, de propos qu'on a pu recueillir auprès de collègues enseignants ou enseignants pour la totalité. Quand on leur parlait de décrochage scolaire, c'est-à-dire que quelque part dans le monde, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir dire oui, ça relève du décrochage scolaire ou du décrochage professionnel, parce que ça les renvoie à des situations qu'ils ont pu vivre en classe, dans l'exercice de leur métier. Alors là, ici, ça a un côté décontextualisé, sorti de son environnement. Néanmoins, on retrouve les différents facteurs qui participent à ce processus de décrochage scolaire de manière un petit peu sous-jacente dans ces différentes affirmations. Alors, premier élément de définition, c'est pas si simple de définir le décrochage scolaire. Je vais essayer d'aller rapidement là-dessus, parce qu'il y a sûrement des éléments évoqués, mais grosso modo, on a deux modèles qui s'opposent, celui de considérer le décrochage comme un état et celui de considérer au contraire comme un processus, hein, c'est-à-dire comme on est ou on n'est pas décrocheur, et le deuxième comme la difficulté finalement à pouvoir dire à quel moment on est dans ce processus, à quel moment on y bascule. Donc la question de l'état, elle se définit assez facilement avec les indicateurs que l'on a au niveau européen et l'ensemble des chiffres que l'on nous communique régulièrement par force de médias ou communication institutionnelle, ministérielle, politique ou autre, c'est cet état, c'est-à-dire qu'on est ou on n'est pas décrocheur. Premier constat, on ne peut pas être décrocheur tant qu'on n'a pas 16 ans. C'est le principe, c'est la définition, hein, c'est-à-dire que les statistiques sont basées sur ces effets, sur ce repère-là. Ça signifie, grosso modo, hein, sauf si on a eu un parcours scolaire très chaotique, mais qu'il n'y a pas de décrocheur au collège. Si on dit ça dans une salle de prof de collège, on va ressortir un petit peu amoché ou cabossé, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de mécontents. Deuxième élément, c'est sorti précoce. On est décrocheur quand on n'est ni en formation ni dans une activité professionnelle et que on est dans une tranche d'âge bien enfermée, quoi. Donc finalement, on sort aussi de ces statistiques. Toute une tranche de la population qui est dans des situations précaires, toute une tranche de la population qui est inscrite en formation mais qui n'est pas investie dans sa formation. Donc ces chiffres-là, ils ont l'immense avantage de pouvoir permettre la comparaison, que ce soit entre des systèmes éducatifs à l'échelle européenne, mondiale, ou la comparaison dans le temps, c'est-à-dire quelle était la situation il y a 10 ans, quelle est-elle aujourd'hui, quelle pourrait-elle être dans 10 ans. Et c'est bien là la force de ces éléments chiffrés. Par contre, après, derrière, ben, se pose un petit peu la question de savoir où est-ce qu'on met les barrières, où est-ce qu'on met les frontières, où est-ce qu'on met les limites dans ces calculs-là. Et la conception d'un décrochage comme étant un processus, alors pour Blaya et Hayden, de désadhésion au système, un accrochage manqué, le repérage de l'impact de ces différents facteurs, constate que finalement c'est pas un facteur mais c'est plutôt un cumul de facteurs, nous amène à percevoir le décrochage non plus comme un état qu'on repère tardivement mais comme un processus pour lequel on doit montrer une certaine vigilance sur une multitude de facteurs. Et c'est dans cette perspective-là qu'on va se placer aujourd'hui. Donc on va parler abusivement de décrochage de manière très précoce aussi, quoi. C'est-à-dire que si on se place un peu en rupture avec la définition du décrochage comme étant celle d'un état à proprement parler, on va voir comment est-ce qu'on peut prévenir ce risque. Voilà, donc les chiffres que j'évoquais, ce sont ceux-là, vous les connaissez, vous pouvez les retrouver, on est très satisfait du fait que l'évolution du taux d'élèves en décrochage diminue et on se rapproche doucement du seuil des 10% qui est l'objectif à 2020. Pour autant, être sans diplôme aujourd'hui pose sûrement beaucoup plus de difficultés pour une insertion sociale et professionnelle que ça pouvait être le cas il y a 40 ans. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de décrochage alors même que le taux est en baisse permanente. Vous pourrez les retrouver, on a tout un tas d'autres indicateurs chiffrés qui sont assez faciles à trouver sur les la communication institutionnelle, ministérielle sur le sujet. Donc ce problème de définition, il y a un petit décalage sur mon écran, je sais pas si c'est pareil. Ouais, c'est pas très grave. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est le caractère un petit peu ambigu, flou qu'on retrouve dans le décrochage et surtout la vigilance qu'on va avoir aujourd'hui à bien distinguer une problématique de décrochage scolaire qui est très différente d'une problématique d'échec scolaire, bien que l'un participe à l'autre, hein, c'est-à-dire que les deux processus ont sans doute quelque chose à voir les uns avec les autres, mais si on s'intéresse à l'échec scolaire, on s'intéresse à une problématique d'apprentissage. Si on s'intéresse au décrochage scolaire, on s'intéresse à une problématique de rapport de l'individu à l'institution scolaire qui admet des facteurs sans doute plus variés, plus complexes aussi à saisir que la problématique d'apprentissage. Autrement dit, on ne va pas rentrer dans une approche qui est celle d'une approche strictement didactique sur la conception et le penser les savoirs à apprendre ou une approche strictement pédagogique, mais on va essayer d'entrer dans une approche qui est celle de la compréhension de l'activité en situation de classe pour pouvoir cerner cette problématique du décrochage scolaire. Et donc, quand on parle de décrochage, on essaie aussi de s'affranchir de cette connotation négative, hein, c'est-à-dire que parler de décrochage professionnel, pour nous, c'est une manière d'appréhender aussi les pistes de développement professionnel et pour un enseignant de s'entretenir enseignant tout au long de sa carrière. Donc il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de connotation négative à considérer qu'il y a aussi du décrochage professionnel. Au contraire, c'est une perspective positive de s'intéresser à cette question-là de manière à entretenir le travail enseignant au quotidien. Alors si on s'intéresse un peu à l'activité et à ce qui se passe dans la classe pour les élèves, on va s'attarder quelques minutes sur le décrochage scolaire et puis ensuite Sylvie prendra la parole sur le décrochage professionnel. C'est un petit peu la manière dont on s'est réparti la parole aujourd'hui. Voilà. Alors depuis quelques années, hein, Jérôme Guérin l'avait rappelé récemment, Alain a abordé ça il y a 30 ans. L'engagement de l'élève, il est partagé entre d'un côté éviter les ennuis, c'est-à-dire s'opposer à l'enseignant, à l'institution scolaire. Donc il y a toute une part de l'activité de l'élève qui est dirigée vers donner à voir ce qu'on attend de moi. En tant qu'élève. Bien sûr, on a quelques récalcitrants et qui sont de temps en temps un petit peu plus provocateurs que d'autres. Et en même temps, l'hétérogénéité des élèves dans les classes amène à une situation dans laquelle tout le monde n'est pas engagé exactement de la même manière. Certains comprennent un petit peu plus vite, certains ont besoin d'un petit peu plus de temps, certains travaillent de manière un petit peu plus poussée, d'autres se contentent de une réussite minimale. Et passer 6-7 heures par jour à l'école, pour l'élève, il y a un défi qui est aussi celui d'éviter de s'ennuyer à l'école et de trouver de l'intérêt. Donc certains le font en essayant de transformer un peu les situations qui sont proposées, en augmentant le challenge, l'intérêt des interactions avec l'enseignant, et d'autres le font en discutant un peu avec leurs camarades, en se défoulant, en s'amusant, en se divertissant. Donc il y a finalement des problématiques comme ça qui apparaissent, entre éviter l'ennui et éviter les ennuis, entre se divertir de temps en temps et puis se mettre au travail, entre se conformer aux attentes scolaires et puis négocier aussi avec les règles de ce collectif d'élèves qu'a évoqué rapidement Sylvie tout à l'heure. Hein. Par exemple, j'ai parfois intérêt à pas donner tout de suite la réponse, même si je l'ai en tant qu'élève, pour pas m'exclure du groupe. Hein, donc ça aussi, ce sont des processus qui de temps en temps conduisent au décrochage. Ou si je suis en difficulté et que j'aimerais bien solliciter l'enseignant, je m'interdis de le faire parce que ça sera mal vu dans la classe. Donc ces attitudes, ces postures, ce poids du collectif participe du processus de décrochage, puisque finalement des élèves qui aimeraient de temps en temps à un moment avoir une aide, un accompagnement, un enseignant qui est à même de pouvoir leur apporter ce petit coup de pouce pour apprendre, l'environnement social, culturel, ce poids du collectif pèse sur la situation de telle sorte que ça ne se passe pas ainsi. Donc ça nous amène à concevoir ce décrochage de l'élève comme cet élève dont l'activité d'apprentissage, activité scolaire, hein, ce qu'on attend de lui et surtout ce qu'on attend qu'il fasse à l'école, hein, ce qu'il puisse en tirer bénéfice, ben cette activité ne va pas être accomplie pour des raisons, pour des circonstances qui sont assez variées, multiples, hein, donc on en détaille quelques-unes dans la diapositive qui est affichée derrière moi sur cette absence de moyens d'accomplissement, c'est-à-dire que j'ai pas les outils, je n'arrive pas à réaliser ce qu'on me demande de faire, je n'arrive pas à atteindre les objectifs que je me suis fixé aussi en tant qu'élève, donc petit à petit je perds un certain intérêt dans le travail qui m'est demandé. Alors on peut l'illustrer sur cette problématique de vouloir apprendre des savoirs disciplinaires, mais et ça se joue exactement de la même manière dans les apprentissages sociaux qu'on peut réaliser à l'école, hein. C'est-à-dire que si on s'est longtemps occupé d'une didactique des disciplines, on pourrait aussi envisager une didactique des apprentissages sociaux à l'école, et on apprend au moins autant à vivre ensemble qu'à lire, écrire et compter ou à sauter et courir parce qu'on vient tous les deux du monde de l'EPS à l'école. Voilà. Donc le décrochage scolaire, c'est cette combinaison. Alors on va rentrer un tout petit peu dans quelques propos théoriques, mais je vais essayer de les rendre les plus clairs possibles, parce que c'est plus un outil pour nous pour comprendre ce qui se passe que l'objet même de la formation, hein. C'est-à-dire qu'on vous demandera pas de lire Léon Tief demain à chacun. Voilà, cette activité pour cet auteur, et on adhère à cette conception de l'activité, c'est l'articulation entre trois composantes. Le but de l'activité, qui correspond finalement à la question du quoi, de ce que je fais, ce que j'ambitionne de faire à un moment donné. Et on va rentrer un petit peu par ça, hein. Donc le but de l'activité, c'est ça peut être, alors on va pas le définir de manière aussi simple que ça, mais c'est pas le but que l'enseignant donne à l'élève, hein. C'est bien la perception qu'a l'élève de son activité. Donc on regarde ça du point de vue de l'élève. On pourrait le regarder du point de vue de l'enseignant ou du point de vue de n'importe quelle activité humaine, hein. Mais le but, c'est l'engagement à l'instant T de l'acteur dans une situation. Donc notre élève, qu'est-ce qu'il cherche à faire à ce moment-là? Discuter avec son camarade, par exemple. Les mobiles vitaux ou les motifs, c'est la question du pourquoi. C'est-à-dire quels sont les motifs qui sous-tendent cette activité. Discuter avec mon camarade pour éviter de m'ennuyer, parce que j'ai compris ce que me raconte l'enseignant et qu'il est encore en train d'expliquer à ceux qui sont un petit peu plus lents, et je cherche à pouvoir satisfaire un certain nombre de mobiles de mon activité. Cette articulation entre les mobiles vitaux ou les motifs et le but de l'activité, c'est ce qu'on comprend comme étant le sens de l'activité. D'accord ? Alors à partir du moment où je dis ça, ça signifie que on réfute complètement l'idée selon laquelle c'est l'enseignant qui communique le sens de son activité à l'élève. C'est-à-dire que tout au mieux, l'enseignant peut co-construire avec l'élève le sens de son activité, mais à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'activité qui n'est pas censée. C'est-à-dire que toute activité répond à un engagement ici et maintenant pour satisfaire des mobiles sous-jacents. D'accord ? Et deuxième idée, ce sens de l'activité, si il est empreint de marqueurs culturels, sociaux, il est aussi personnel, individuel, singulier, c'est-à-dire propre à l'acteur. C'est-à-dire que je ne peux pas prescrire strictement le sens de l'activité à quelqu'un. Par contre, le challenge de l'enseignant, c'est d'aider l'élève dans la construction de ce sens et de faire en sorte que le sens qu'il donne à son activité se rapproche d'une activité qui est conforme avec les attentes de l'institution scolaire et des raisons pour lesquelles il fréquente l'école. Donc là, ici, le décrochage serait lié, hein, le petit encadré bleu en bas à gauche, à un décalage entre l'interprétation des élèves, des situations scolaires, avec leurs attentes. C'est-à-dire que les attentes qu'on nourrit à l'égard des élèves ne sont pas forcément celles qu'ils retrouvent. Le deuxième élément, c'est la petite bulle d'en bas, ce sont les opérations. Les opérations, c'est plutôt la question du comment, hein, et c'est-à-dire quels sont les outils. Ce que finalement un observateur extérieur pourrait presque voir, décrire, appréhender de l'activité. Alors on parle de technique, on parle d'instrument dans notre jargon de chercheur. Et cette articulation entre les buts et l'opération, c'est ce qu'on appelle l'efficience, c'est-à-dire ce qui permet de réaliser le but, c'est-à-dire d'atteindre les objectifs qu'on se fixe dans notre engagement. Par exemple, la maîtrise des opérations mathématiques pour résoudre un problème qui est posé par l'enseignant. Hein, donc le but de l'élève serait de résoudre le problème mathématique, les opérations seraient la maîtrise des outils qui lui permettent de le faire. Par contre, le motif après peut être quelque chose de tout à fait privé, hein, ça peut être accroché à des motifs qui sont de l'ordre de satisfaire l'enseignant pour lui montrer qu'on est un bon élève. Ça peut être aussi réaliser le problème mathématique pour éviter de me faire gronder par mes parents si je ramène une mauvaise note le soir, quoi. Hein, c'est-à-dire que donc le sens de l'activité relève bien de quelque chose qui est de l'ordre du privé et dont l'accès n'est pas immédiat pour des observateurs extérieurs ou pour autrui, ce qui implique pour l'enseignant d'user de stratégies d'intervention pédagogique, de manière de entrer en contact avec l'élève pour pouvoir appréhender ces éléments propres au sens de l'activité. Et donc on s'attache à essayer de comprendre et d'appréhender ce processus de décrochage scolaire en faisant l'hypothèse que l'élève va décrocher dans son travail scolaire dès lors que il va y avoir un, alors je triche un petit peu avec les termes, mais un déficit de sens, hein, bien que j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'activité sensée. Quand je dis déficit de sens, c'est-à-dire un déficit de sens dans la perspective des attentes scolaires, ou un déficit d'efficience, c'est-à-dire une incapacité à opérationnaliser, à réaliser ce qu'on lui demande de faire, ou alors une incapacité à pouvoir accrocher ce qu'on lui demande de faire à un intérêt particulier pour lui. C'est-à-dire que je décroche quand ce qu'on me demande de faire ne présente plus réellement d'intérêt pour moi et que je ne vois pas des raisons d'investir de l'énergie là-dedans. Voilà, je vais passer la parole à Sylvie. On va rapidement voir ça sur l'entrée décrochage professionnel.
Alors, je vais utiliser la même démarche, c'est-à-dire que je vais partir de certaines définitions de travaux, mais quelques définitions seulement, de travaux qui partent de cette idée que le décrochage professionnel, eh bien, se définit comme l'abandon de la profession. Certains parlent de rupture professionnelle, ça c'est la première idée, rupture professionnelle, et d'autres travaux montrent et mettent en évidence que le décrochage enseignant, eh bien, c'est un départ prématuré de la profession enseignante. Et dans cette idée de départ prématuré, il y a notamment, bien évidemment, vous l'avez compris, eh bien, cette problématique des jeunes enseignants quand on entre dans le métier. Eh bien, on voit bien qu'on est confronté à un certain nombre de défis, un certain nombre de problématiques qu'on n'a pas encore trouvées, enfin, qu'on n'a pas encore résolues, et auxquelles on est très, très sensible quand on est jeune enseignant. Donc, départ prématuré de la profession enseignante, les jeunes enseignants quittent très tôt, dans la première année ou dans les cinq premières années, la profession,
Donc ça, on s'appuie sur les études de l'OCDE en 2005 et d'études anglo-saxonnes, et notamment donc des chiffres à l'appui aux États-Unis, par exemple. Eh bien, il y a 11% d'enseignants qui quittent la profession à l'issue de leur première année d'exercice et 39% dans les 5 ans. C'est quand même des chiffres qui devraient et qui nous font réagir. Et bon, un autre exemple, hein, en Belgique francophone, 40% des enseignants du secondaire ont abandonné dans les 5 ans. Donc vous voyez bien que ce décrochage, ce départ prématuré concerne bien les jeunes enseignants. Donc vous comprenez également que la formation des enseignants a un rôle crucial à jouer, notamment dans l'accompagnement des jeunes enseignants dans le métier. Nous n'aimons pas les stats. Alors, les stats français, je pense également qu'il faut dire que c'est un sujet tabou. Il faut le reconnaître que cette problématique de décrochage professionnel, eh bien, elle est tue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on ne veut pas en parler, surtout pas parce qu'on remettrait en cause la formation des enseignants, parce que, bien évidemment, vous le soulignez très bien, c'est-à-dire que c'est politique. Et donc, on avait des statistiques à un moment donné avec dans le groupe, et des statistiques, mais qui n'étaient pas fondées ou bien voilà. Donc, je ne vous donnerai pas aujourd'hui des statistiques. Je vais faire comme beaucoup d'autres personnes. Je ne vais pas dévoiler les statistiques en France, mais je vais plutôt vous parler de l'étranger. Donc vous voyez bien, et surtout pour vous dire, alors au-delà de ces statistiques, je pense qu'il faut reconnaître que en effet c'est une problématique internationale. C'est une problématique, la problématique du décrochage professionnel, c'est une problématique internationale et qui a donc déjà été étudiée. Et il y a notamment un auteur, Ingersoll, qui note que le taux de décrochage, alors là il n'est pas cité, qui note que le taux de décrochage enseignant est plus élevé que dans d'autres professions. Donc là, c'est encore une fois un indice ou bien des données, que ce soit quantitatives, mais nous avons également des données qualitatives qui montrent bien que c'est une problématique à prendre en charge et surtout à réfléchir entre nous et à surmonter. Alors, on peut rapidement, hein, très très rapidement, mais je pense que c'était intéressant également de se mettre d'accord sur une petite des données, une petite culture commune sur le décrochage professionnel. Il y a certains travaux qui mettent en évidence l'origine du décrochage. Il y a différents facteurs, les facteurs qui sont liés à la tâche. Vous allez comprendre pourquoi les jeunes enseignants ou les enseignants expérimentés, eh bien, quittent la profession parce que le métier laborieux est laborieux, parce que il y a également une multiplicité de missions et une intensification de la charge de travail. Là, donc, on s'inscrit bien dans la perspective psychologique du travail, c'est-à-dire qu'on voit bien que le renouvellement des réformes, la multiplicité, la diversité des injonctions, eh bien, à un moment donné, eh bien, ça influence ou ça pèse, ça a un impact sur justement cette activité professionnelle et peut donc conduire à l'épuisement professionnel, décrochage professionnel, même si les deux termes ne sont pas à confondre, bien sûr. Donc, facteur lié à la tâche, il y a également la gestion des classes difficiles. Deuxième facteur lié à la personne. Ça, ce sont plutôt les facteurs liés à la personnalité de l'enseignant, c'est-à-dire des facteurs psychologiques, des facteurs de stress. Le métier est un métier qui s'accompagne de beaucoup de stress, vous le savez très bien. Et on a certains enseignants qui n'ont pas cette autorité, un rôle d'autorité, qui n'arrivent pas à construire et à assumer ce rôle d'autorité et qui, bon, au bout de quelques années, eh bien, s'aperçoivent que, en effet, ils ne sont pas faits pour le métier et donc quittent la profession. Un troisième et dernier facteur, le facteur lié à l'environnement social, cela concerne donc les relations entre l'enseignant et puis les acteurs éducatifs, les acteurs qui exercent dans l'établissement scolaire, relations un peu tendues. On n'apprécie pas les enseignants n'apprécient pas forcément de travailler avec tel ou tel acteur éducatif, etc., etc. Et on a la même problématique facteur donc lié à l'environnement social avec le type de public. Il est vrai que, et là encore une fois je n'ai pas de stats, mais on pourrait interroger quand même les enseignants, les départs prématurés lorsque les enseignants sont affectés dans les établissements en zone d'éducation prioritaire avec un public difficile. Mais il y a également dans certains milieux, dans certains établissements favorisés, il y a également, on trouve quand même cette problématique. Donc attention à ne pas généraliser. Alors une autre façon de penser le décrochage professionnel. Je suis exactement la démarche empruntée par Eric, c'est-à-dire que là j'ai mis en avant la définition de certains auteurs et nous avons donc proposons aujourd'hui une autre définition du décrochage professionnel qui est en lien direct avec cette notion de sens, comme vous pouvez le comprendre. C'est-à-dire que, en référence donc aux travaux en clinique de l'activité, en référence à la notion d'amputation du pouvoir d'agir, et vous allez comprendre très facilement, très rapidement, c'est-à-dire que le décrochage professionnel serait une forme particulière de décrochage des enseignants, dont l'origine proviendrait donc d'une amputation du pouvoir d'agir. C'est-à-dire, et je ne sais pas si vous connaissez les travaux d'Yves Clos et les travaux en clinique de l'activité, certains en ont entendu parler, eh bien, nous nous inscrivons dans ces perspectives théoriques et nous montrons qu'à partir du moment où l'activité professionnelle est contrariée et empêchée, parce que justement l'élève ne veut pas ou refuse de réaliser ou de s'engager dans la tâche proposée par l'enseignant. Eh bien, il y a à un moment donné une amputation du pouvoir d'agir. Vous allez entendre l'enseignant qui va vous dire, eh bien là, il va vous dire, je ne comprends pas, je ne sais plus quoi faire et je ne sais plus comment faire. Le comment, les moyens, on vous a parlé tout à l'heure d'opération, le quoi, le but de l'action, et qui est associé forcément à un mobile. Plus précisément, et là je ne vais pas m'attarder sur les bulles de ce schéma, du schéma, mais je vais plutôt vous lire l'hypothèse, parce qu'elle est, pour moi, elle est, pour vous également, elle va être très claire. C'est parce que les enseignants ne maîtrisent pas certaines opérations, c'est-à-dire certains savoirs. On peut se dire également que tout intervenant, à un moment donné, eh bien, confronté à un problème d'intervention, eh bien, ne sait pas comment faire. Ça, on peut tous l'admettre quand même. Donc, ne maîtrise pas certaines opérations, qu'il renonce à la tâche. Le décrochage est lié à des buts qui ne peuvent pas être réalisés. Rapidement encore, donc cette fois-ci en rapport avec le sens, c'est parce que les enseignants ne réussissent pas à satisfaire leur mobile qu'ils renoncent à poursuivre. Et c'est ce que Yves Clos parle souvent d'activité qui est vidée de son sens, d'activité du sujet donc dévitalisée et amputée de son pouvoir d'agir. Là, on a là, alors bon, bien évidemment, on emprunte ces concepts théoriques à Yves Clos, mais je pense que là, c'est suffisamment significatif pour nous pour dire en effet, le décrochage professionnel a quelque chose à voir avec cette idée de sens et cette idée de déficience ou de déficit, justement, de moyens et d'opérations. Peut-être la dernière diapositive, une hypothèse sur le double décrochage, je vous en ai parlé tout à l'heure, et moi je voulais faire référence à notre collègue Jacques Méard, qui a travaillé sur cette problématique avec nous, et qui a écrit notamment une phrase très très claire, « L'absence d'engagement des élèves dans la tâche liés au déficit de sens qu'ils accordent au travail, c'est ce que vous a expliqué Eric tout à l'heure, eh bien, affectent le sens que donne l'enseignant à son activité et créent en conséquence des situations du travail contrariées. Donc là, on voit bien deux processus interpénétrés, un processus qui ne peut pas être compris, on pourrait même dire ça, qui ne pourrait pas être compris sans avoir décrit l'autre processus. Le décrochage scolaire a quelque chose à voir, encore une fois, avec le décrochage professionnel. Et je pense que là, c'est une perspective, une approche nouvelle qui peut surprendre. Mais je pense qu'on ne peut pas, comme on ne peut pas non plus, définir l'activité de l'élève sans faire référence à l'activité de l'enseignant. Je suis désolée, nous aurions dû dire ça au début, vous aurez le PowerPoint. Donc ne soyez pas frustrés. J'aurais dû dire ça avant. Je suis désolée.
En deux mots, schématiquement, ce que vient de dire Sylvie, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on a bien deux activités qui sont autonomes, celle de l'enseignant et celle de l'élève. Et en même temps, elles sont interpénétrées. Hein, c'est-à-dire que chacun des deux acteurs est engagé dans son activité avec son engagement, ses préoccupations, ses motifs d'agir, ses moyens de réaliser ses motifs. Mais ces deux activités ont quelque chose à voir l'une avec l'autre, hein. C'est-à-dire que la manière dont l'enseignant va intervenir dans la classe va permettre effectivement à l'élève de satisfaire ses motifs d'engagement et donc en retour de satisfaire ceux de l'enseignant, etc., etc. On peut rentrer par l'élève, on peut rentrer par l'enseignant, peu importe, mais il y a bien cette idée d'interpénétration, ce qui nous amène aussi à considérer que ces deux processus de décrochage scolaire et professionnel sont intimement liés. De la même manière, on a parlé un petit peu de cette dimension culturelle et sociale. On ne peut pas appréhender simplement cette activité de l'élève et de l'enseignant en dehors du contexte dans lequel ça se passe. Il y a un collectif d'élèves, il y a un collectif éducatif et pas que enseignants, même à la limite, hein, mais il y a tout un tas d'acteurs qui gravitent autour du travail de l'enseignant, qui participent de l'éducation de l'élève. Et cette activité de l'enseignant ou de l'élève, elle ne se passe pas de manière privée dans l'interaction prof-élève, mais elle se passe dans un environnement dans lequel le poids du collectif participe grandement aussi des événements. Voilà, on ne va pas s'attarder trop longtemps sur ces éléments. On va se prendre, alors on va lire un décalage dans les horaires, hein, puisqu'on a un petit quart d'heure de décalage là-dedans. On va essayer de travailler sur des vidéos et des verbatims sur la base des trois ateliers. Je donnerai juste la parole à Sylvie et Stéphane juste après pour qu'on puisse s'organiser sur les ateliers. Simplement, d'où viennent les données? Voilà. Nous, on travaille de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a des situations de classe au centre. On va observer ces situations de classe. On prend en note un certain nombre d'éléments de contexte qui sont pas forcément perçus par le dispositif d'enregistrement, qui est le deuxième outil de recueil de données, c'est-à-dire qu'on enregistre. On a des traces d'activité. Parfois, c'est pas de la vidéo. Parfois, c'est juste de la photo. Parfois, c'est un journal de bord. Mais en tout cas, on essaie d'avoir des traces précises de ces situations de classe. Et puis ensuite, après, surtout, ces notes, ces traces d'activité, elles servent de support à la réalisation d'entretiens qu'on appelle autoconfrontation simple quand on est juste avec l'acteur, croisé quand on prend deux ou trois collègues en plus pour pouvoir discuter de ce qui s'est passé dans la classe. Et c'est ça qui constitue le cœur de nos matériaux de travail, de recherche, d'analyse, c'est-à-dire ce que les enseignants, les élèves, les formateurs peuvent dire de leur propre activité, c'est-à-dire qu'on va accorder un primat au point de vue intrinsèque. On n'est pas, je ne sais pas, une exclusivité. Hein, on n'est pas complètement aveugle à ce qui se passe dans le contexte, mais en même temps, on accorde énormément d'importance à ce que vivent, ce que disent les acteurs de leur activité, c'est-à-dire la manière dont ils comprennent l'environnement dans lequel ils interviennent, la manière dont ils construisent les significations dans leur action qui sont pas forcément celles que nous on pourrait construire, quoi. C'est-à-dire que les significations qu'on peut accorder à une même situation décrite peuvent différer d'un individu à l'autre. Hein. En rugby, une situation de mol, c'est un défi physique pour certains et c'est une situation fortement anxiogène pour d'autres élèves parce qu'ils risquent de se blesser, quoi. Pourtant, de l'extérieur, on décrit exactement la même chose, quoi. Voilà, bon, c'est ce que j'ai dit et du coup, on va travailler en petits groupes.
Alors, on va donner peut-être la consigne, en effet. Vous allez avoir donc des matériaux. Quand on parle de matériaux en recherche, eh bien, ce sont des matériaux, on vous l'a dit, hein, soit une vidéo de classe, soit une vidéo d'entretien d'autoconfrontation, soit des verbatim, transcription de l'entretien. Voilà. Et donc, à partir de ces matériaux, on vous demande, avec le souvenir que vous avez de la journée d'hier, mais surtout le souvenir que vous avez de cette matinée, de ce début de matinée sur les définitions de décrochage professionnel et décrochage scolaire, on vous demande d'analyser ces matériaux. Que faites-vous comme analyse des processus de décrochage scolaire et de décrochage professionnel? Voilà. Donc, vous pouvez, alors, on vous donne quelques précisions, hein, pour l'entretien et pour les verbatims. Eh bien, vous pouvez relever les préoccupations dans les dialogues que vous allez avoir, dans les dialogues que vous allez écouter. Vous pouvez relever les préoccupations, les difficultés qui sont exprimées par l'acteur. Et puis, dans la vidéo, vous pouvez déjà décrire des événements marquants, des micro-événements, où vous pouvez également décrire les interactions avec les élèves et les gestes professionnels. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez besoin de plus de précisions avant d'entrer dans ce TD? Et on fera bien évidemment une synthèse après, mais c'est vraiment vous permettre d'expérimenter et d'exercer et de mettre à l'épreuve peut-être également certains concepts qu'on a dit tout à l'heure, qu'on vous a présentés, et puis voir en effet comment vous pouvez analyser le processus de décrochage scolaire et professionnel. Des questions? Est-ce que la consigne est claire? Oui. Donc,
Une phrase, hein, mais dans les trois ateliers, il y a bien des données d'entretien de l'enseignant et ce qu'il dit de ce qu'il fait. Et dans certains ateliers, il y a aussi des verbatims d'élèves, hein, des propos d'élèves, quoi. C'est là-dessus qu'on cherche à travailler, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé du point de vue des acteurs et qu'est-ce qu'on peut nous dire après, qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Sur la vidéo, c'est bien décrivé, c'est pas interpréter et analyser. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on fait de la situation vécue par les acteurs. Donc de ce qu'ils nous disent, c'est pas notre analyse d'une situation de classe. Ah oui, mais l'enseignante, elle s'y prend pas bien, elle aurait dû, elle aurait pu. Nous, on est au chaud, on est confortable, on n'est pas dans le feu de l'action. Moi, j'ai jamais rencontré un enseignant qui me dit « j'ai pris une décision, je sais que c'est pas la bonne, mais je pouvais faire autre chose, mais j'ai quand même choisi de faire un truc pas bien, quoi. Hein ?» C'est-à-dire que dans le feu de l'action, on est quand même tous intimement convaincus que la décision que l'on prend est le meilleur compromis possible au moment où on agit, quoi.
Ou dit autrement, et on aime bien le dire à l'effet, on a de bonnes raisons de faire ce qu'on fait. Voilà, donc de bonnes raisons, sous-entendu et exactement. Donc je pense qu'on a été clair, merci. De bons mobiles, c'est-à-dire que là, c'est des raisons d'agir. Voilà.